Chapitre 6. Une main en visière pour ne pas être gêné par la lueur grisâtre du ciel plombé, Gérald plissa les yeux pour mieux sonder l'horizon. Dans l'autre main, il tenait toujours la pioche, la laissant pour l'instant pendre mollement au bout de son bras. Il ne s'était pas trompé. Il y avait bien des gens au loin dans la brume. En se concentrant, il identifiait les mouvements de la marche. Mais de sa vie, il n'avait jamais vu pareille multitude. Et il n'aurait jamais cru que ça lui arriverait un jour, en tout cas de ce côté du voile. Dans le royaume des morts, c'était une autre affaire. Grâce aux marchands et aux colporteurs, il savait bien entendu qu'il existait des endroits très peuplés. À l'ouest et au sud, on trouvait d'immenses cités dont les rues grouillaient de gens. Et, même dans les terres noires, essentiellement au sud-ouest, plusieurs villes étaient beaucoup plus grandes qu'Insley. Le plus grand endroit que connaissait Gérald, c'était Saavedra, une ville située à la lisière de la région la plus périlleuse et la plus reculée des terres noires. Depuis sa sentinelle, dans cette capitale, l'évêque Anis Arc régnait sur la province de Fadjin. Mais la plupart des gens s'y référaient encore par son antique nom, les Terres Noires. Un nom qui s'accrochait à ce pays comme la boue qui suintait des morts et qu'on ne pouvait jamais enlever dessous les ongles même en se lavant et en se relavant les mains. Dans sa jeunesse, Gérald était allé une fois à Saavedra. Suivant les conseils de gens qui connaissaient les lieux, il était resté très loin de la citadelle. Au sujet de l'évêque, ces mêmes personnes colportaient des descriptions terrifiantes. Jouer avec le feu n'étant jamais bon, Gérald s'était tenu à l'écart des ennuis. À Saavedra, il n'avait jamais trouvé de travail. En revanche, il s'était déniché une femme. Issue d'une famille très pauvre qui parvenait à peine à la nourrir, la jeune fille ne s'était pas alarmée du métier de son futur mari tant qu'il pouvait mettre ce qu'il fallait sur la table. Après les noces, ils étaient allés ensemble à Insley, Gérald acceptant de se charger du cimetière afin que sa chair étendre n'ait plus jamais faim. La pauvre était morte en couche à sa première grossesse. Un drame qui semblait remonter à une éternité. Et depuis, Gérald ne s'était jamais remarié. Alors qu'il regardait des inconnus approcher, il eut la désagréable impression que sa tranquillité était à jamais terminée. Devait-il fuir? Sans doute, mais il était bien trop vieux pour courir assez vite. Et que risquait-il au fond? Que pouvait lui vouloir des inconnus? Un vieux fossoyeur ne valait rien pour personne, et il ne possédait rien qui vaille la peine d'être volé, sinon quelques outils et une charrette à bras bancal. Sauf s'ils ambitionnaient de transporter des morts et de creuser leurs tombes, les envahisseurs n'avaient vraiment rien à lui envier. Mais que se passait-il? Qui étaient tous ces gens? La curiosité lui interdisait de partir, et de toute façon, où se serait-il caché? Dans la forêt? Un remède bien pire que le mal, très probablement. Le plus bizarre, à part le nombre de silhouettes, c'était que toutes semblaient vêtues de blanc. Si bizarre que cela paraisse, elles devaient toutes porter une tunique blanche. Alors que la multitude approchait, Gérald constata qu'il se trompait. Les inconnus ne portaient pas de tunique. À vrai dire, ils n'avaient pas non plus d'autres vêtements, ou presque pas. Mais leur corps et leurs membres étaient blancs, leur tête aussi d'ailleurs, comme s'il s'était enduit de cendres claires. De sa vie, Gérald n'avait jamais rien vu de tel. Pour quelle raison se couvrir ainsi de cendres? Au centre, le vieux fossoyeur repéra des silhouettes bien plus sombres, qui se détachaient parfaitement sur le fond uniformément blanc de la multitude. La brume sale semblait être une masse qui enveloppait la colonne, comme si celle-ci la tirait avec elle, à moins qu'elle la produise en avançant. De plus près, Gérald vit qu'il s'agissait d'une sorte de nuage lourd et menaçant, comme si ces gens se déplaçaient à l'abri de leur propre climat délétère, l'apportant avec eux partout où ils allaient. D'étranges éclairs verdâtres déchiraient de temps en temps cette masse grise. Gérald se demanda s'il avait raison de ne pas fuir. En lui, tout criait qu'il devait filer, ou en tout cas aller faire un tour dans la forêt jusqu'à ce que ces inconnus soient passés. Mais les silhouettes sombres se dirigeaient droit vers lui. D'instinct, il devina que s'enfuir aurait été la pire chose à faire, car s'échapper était le meilleur moyen d'inciter un prédateur à chasser. Un prédateur? Oui, bien entendu. Ces intrus en étaient. Ça tombait sous le sens. Dans ces conditions, le mieux était de jouer les naïfs et de rester amical, et le cas échéant, de répondre à toutes les questions qu'on pourrait lui poser. À l'évidence, il ne représentait pas une menace pour ses prédateurs. Pour s'en tirer, la meilleure chance était de se montrer serviable, puis de les laisser continuer leur chemin. Quand on se montrait utile, on ne risquait guère de se faire trucider. Bien qu'il n'ait pas d'amis à Hinsley, ni même de gens le considérant d'un bon œil, on l'y tolérait parce qu'il était utile. En acceptant une lourde corvée, il avait réussi à survivre des années. En ce jour, il allait devoir s'inspirer de cette expérience pour sauver sa peau. Mais les silhouettes sombres à la tête de la colonne se dirigeaient pour de bon vers lui, et elles allaient entraîner tous ceux qui les suivaient à piétiner son beau jardin des morts. Les silhouettes sombres, distingua-t-il enfin, n'étaient en fait que deux. La première était enveloppée d'une aura bleue, comme s'il s'agissait d'un mélange entre un être vivant et un esprit. Sa compagne se révéla bien plus sombre et d'une manière plus radicale. Même s'il portait une longue tunique noire, c'était un homme, comme l'autre. Et si les yeux de Gérald ne le trompaient pas, sa peau était entièrement couverte de tatouages. Une femme en cuir rouge suivait les deux hommes. Gérald devina sans peine ce qu'elle était. Avançant d'un pas régulier, l'homme-esprit avait les bras baissés, paume vers l'extérieur. C'était lui la source de la brume sale. Lui qui l'attirait avec lui. On eût dit le sillage d'un bateau ou la traîne d'une robe. Qui pouvait être cet homme? Un des hôtes maléfiques de la forêt, sûrement. Oubliant ses bonnes résolutions, Gérald décida de s'enfuir. Mais ses jambes refusèrent de le porter. Comme enraciné dans le sol, il resta où il était, regardant les deux inconnus approcher sans hâte. Était-il responsable de sa paralysie, induite par quelque sombre magie? Ou était-ce simplement l'effet de la peur? Dans les deux cas, Gérald n'avait pas le choix. Il devait rester et regarder son destin venir à lui. Lorsque l'homme-esprit et le tatoué entrèrent dans le jardin soigneusement entretenu de Gérald, suivi par des milliers de silhouettes blanches dociles, le sol se mit à bouger. Pas parce qu'il tremblait sous leurs pas, non. Le mouvement venait des profondeurs de la terre, comme si... Le sol ne bougeait pas partout. Bien au contraire. Il ondulait seulement là où se trouvaient des tombes, comme si leurs occupants s'agitaient soudain. Partout dans le cimetière, alors que la brume sombre de l'homme-esprit passait au-dessus, les tombes les plus récentes se craquelèrent puis commencèrent à s'ouvrir. Voulant détourner le regard de ce spectacle incompréhensible, Gérald leva les yeux pour découvrir les deux hommes qui dirigeaient la colonne, immobiles à quelques pas de lui. Difficile de dire lequel était le plus terrifiant. L'homme-esprit était en réalité un cadavre, vêtu d'habits souillés de sang séché. Dans le métier de Gérald, on voyait souvent ça, mais jamais sur un mort qui semblait bien vivant. Le plus horrible, c'était cette aura bleue, comme si une dépouille et un esprit avaient coexisté en un même endroit et dans un même temps. Du moins, si Gérald en croyait les descriptions des esprits qu'il avait entendus, car il n'en avait jamais vu, enfin... Jusque-là. Mort-vivant ou vivant-mort, l'homme était quoi qu'il en soit bien présent en ce monde et parfaitement conscient de ce qu'il y avait autour de lui. Regardant à la fois avec les yeux d'un esprit et les globes oculaires d'un cadavre, il était lucide et n'avait rien d'un zombie. Cela dit, il n'avait rien d'un esprit du bien non plus. L'autre homme, le tatoué aux yeux rouges et à la tunique noire, était un vivant comme les autres, si on exceptait les symboles entrelacés qui couvraient le moindre pouce visible de sa peau. Ayant souvent entendu sa description au fil des ans par des gens qui murmuraient le plus souvent, Gérald n'eut aucune peine à identifier son visiteur. La femme aux cheveux nattés derrière les deux hommes était une mort de site. Même sans son uniforme de cuir rouge, elle aurait été facile à identifier, y compris quand on n'avait jamais vu de membre de sa corporation, comme c'était le cas de Gérald. Mais un regard si cruel ne pouvait appartenir à personne d'autre. Derrière les deux hommes et la femme, les êtres couverts de cendres blanches, afin d'intimider leurs ennemis ou peut-être de passer pour des spectres, s'étaient arrêtés et rivaient sur Gérald leurs yeux cernés de peinture noire.
Je suis le seigneur Arc,
annonça l'homme en tunique noire. Il tendit une main dont même la paume était entièrement tatouée.
Et je te présente l'empereur sous la canne.
Un nom que Gérald n'avait jamais entendu.
Et que me voulez-vous si j'ose demander?
L'empereur mort eut un fin sourire qui ressemblait à un rictus.
Nous sommes venus chercher tes morts.
La voix du spectre vrilla tous les nerfs de Gérald, comme si on le piquait avec des milliers d'aiguilles.